Bonjour à tous, bienvenue dans la première édition du podcast de This is Basketball. Pour cette première édition, nous sommes à Bruxelles, plus précisément à Neder-Overenbeek, en compagnie du coach du Brussels, Serge Krefker. Serge, bonjour.
Bonjour.
Merci avant tout d'avoir accepté notre invitation et pour votre temps.
Avec plaisir. Je suis très, très fier et très heureux de faire la première.
Nous aussi, on est fiers d'être là. Alors, vous êtes arrivé en 2008 à Excelsior.
Oui.
On vous a nommé coach de la N3 à l'époque.
Vous êtes bien renseigné.
Et donc, ça fait 9 ans que vous êtes ici.
Ouais.
Est-ce que vous vous êtes imaginé ça?
Alors, pour la petite histoire, c'est vrai, j'ai signé en mars 2008, suite à un rendez-vous avec le président de Candela. Et 2 semaines après, il me dit qu'il va arrêter. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, tu ne vas pas arrêter, on va aller en division 1. Il m'a pris pour un fou à ce moment-là, mais je vous assure que c'est la vérité. Et donc non, évidemment, c'était plus une boutade, on avait tous les deux l'ambition de progresser.
Et pourtant, j'ai retrouvé une interview que vous avez donnée au Newsblatt et vous avez déclaré, donc en 2008, juste avant votre entrée en fonction, Bruxelles mérite un club en division 1.
Ouais, ça confirme ce que je viens de dire.
Voilà.
C'était beaucoup de travail pour y arriver.
Ah voilà, venons-y. Comment l'idée est venue dans votre tête et dans celle du président de Candela?
On est des gens ambitieux. Premièrement. Deuxièmement, on est tous les deux bruxellois. On aime vraiment cette ville.
Ça aide.
Je crois que c'est très important. On aime vraiment cette ville, on est identifié à cette ville. Et en effet, je trouve que Bruxelles mérite clairement d'avoir un club non seulement en division 1, mais aujourd'hui, on voit les résultats, un club du top.
Ah, oui, on rappelle que le Bruxelles, c'est 3e au classement. Mmh. Et donc, est-ce que ce fut difficile d'y arriver? Combien de temps vous avez dû passer de nuits blanches, de journées entières?
C'est très compliqué. C'est très, très. Je pense que pour gérer un club sportif, et vous savez que ma fonction, c'est coach, mais aussi directeur général du club, donc surtout le sponsoring, etc., et d'autres choses. Pour gérer un club sportif, je crois qu'il faut être un peu fou. Et donc, c'est très compliqué. C'est tout aussi compliqué de se maintenir. Ce qu'on arrive à faire maintenant, je suis en train de me demander comment on va faire ne serait-ce que maintenir ce qu'on est en train de faire.
Mais parce qu'il faut rappeler que le club était totalement amateur donc à votre arrivée et que vous avez dû donc le professionnaliser. Donc il y a toujours des bénévoles, mais il a fallu engager des gens, etc. Oui. Ça a dû être compliqué et coûteux.
C'est une entreprise en fait. Hein. C'est une entreprise, on a 15 personnes sur le payroll. Donc ça devient une petite PME, mais c'est un groupe formidable hein, de personnes. Il y a énormément de gens. Vous avez parlé des bénévoles, ils font un travail extraordinaire. Je crois qu'on est bien entouré aussi par les gens qui travaillent dans les bureaux. On a la femme du président Martine de Canelar qui s'occupe de tout ce qui est ticketing, événements. Yves Deray qui fait toute l'infrastructure, la logistique. On a maintenant engagé Youssouf Keïta qui est mon assistant. Enfin voilà, le club grandit, le club progresse. On a un responsable de la communication. On a quelqu'un qui m'aide pour faire le commercial. Donc voilà, on se développe.
Et tout d'abord, il faut savoir que le Brussels, en venant en Division 1, a amené une stratégie différente de communication qu'on ne connaissait pas avant réellement. D'ailleurs, vous êtes 2e au nombre de likes sur Facebook, dans les clubs de D1 Belge, 1er sur Instagram, entre autres.
Ben, on essaye, oui, d'avoir une communication adaptée par rapport à notre public. Le public, c'est qui? Ce sont des jeunes, ce sont des familles, des jeunes parents, essentiellement. Après, il y a aussi, c'est vrai, d'anciens joueurs qui se retrouvent avec plaisir à Bruxelles. Mais en effet, on essaie d'être dynamique et on a une vraie stratégie de communication. On engage aussi beaucoup de stagiaires en communication de France, des universités en Belgique, qui amènent justement ces nouvelles idées, cette fraîcheur dans notre communication.
Et bon, on va revenir un petit peu au sportif. Donc, la saison 2013-2014 marque votre entrée dans l'Etias League, comme elle s'appelait à l'époque. Ouais. Et comment ces débuts ont été... Comment vous les avez ressentis? C'est-à-dire que le Brussels donc, était une équipe qu'on aimait voir jouer parce qu'il y avait de l'attaque, mais il y avait un peu moins de défense. Donc on aimait bien venir voir un match du Brussels parce qu'on s'amusait bien.
Voilà.
Mais les résultats n'étaient peut-être pas...
Comment est-ce qu'on a abordé cette première année? Pour être franc, avec d'abord un peu d'appréhension, c'est clair, parce qu'on arrivait vers quelque chose qu'on ne connaissait pas. Il y avait beaucoup d'excitation aussi d'arriver en Division 1. Et en effet, on avait beaucoup à apprendre. Donc on a essayé de garder les yeux bien grands ouverts pour essayer de voir là où on ne faisait pas bien, de s'améliorer. Et chaque année, on essaye d'amener des choses en plus, que ce soit au niveau sur le terrain sportif ou hors du terrain, structure du club et organisation. Donc je crois qu'il y avait beaucoup d'humilité, il y a toujours, pour être franc par rapport aux choses qu'on fait moins bien et les corriger et faire mieux. Je crois que ça, c'était très important. Alors, c'est vrai qu'on avait aussi choisi d'avoir un jeu attractif.
On l'a vu.
Voilà, et je pense qu'on l'a toujours gardé. Ça reste une marque de fabrique. Et c'est très important, je crois, quand vous êtes en phase de construction, en phase d'évolution, d'avoir un jeu attractif pour attirer le public. Sans public, on n'est rien. Donc, ce sont les gens les plus importants pour nous, les fans, les supporters, bien entendu les sponsors aussi, mais voilà. Et donc pour tous ces gens-là, il faut avoir un jeu attractif. Pour tous ces gens-là, il faut avoir une salle pleine.
Mais on l'a vu d'ailleurs en 2013-2014, ici, Neder était déjà plein. Il y a des matchs qui ont fait sold out. On a dû refuser des gens à l'entrée.
C'est vrai, contre Charleroi notamment, parce que c'est Charleroi aussi, évidemment. Mais je pense que c'est vrai, les gens nous suivent avec fidélité parce qu'on leur propose un chouette spectacle.
Et donc, vous avez débuté en D1 en 2013. À quel point ce fut compliqué d'accueillir les Américains ? Je vais venir un petit peu sur ça, sur le sportif, parce que vous avez tout changé. Vous étiez donc en Division 2, en Division 3. Vous n'avez jamais connu ça, faire venir des rookies, des gars plus expérimentés. Mais c'est compliqué de les faire s'acclimater.
Il a fallu apprendre déjà, parce que c'est vrai qu'avant, on n'avait aucune relation avec les agents. Ouais. Donc, c'est moi qui m'occupe du recrutement. Donc voilà, mais ça s'est fait... Ça s'est fait rapidement. Est-ce qu'on a fait des erreurs ? Oui, on a fait des erreurs. Est-ce qu'on a essayé de les corriger ? Oui, on a essayé de les corriger. Est-ce qu'on va faire mieux demain ? Oui. Et donc, je crois que ça s'est malgré tout bien passé. Je crois qu'un élément très important aussi pour nos joueurs étrangers, c'est le fait qu'on ait un bâtiment qui est situé à 300 mètres de la salle dans lequel tous nos appartements se trouvent à l'exception d'un appartement. Et donc, les joueurs vivent ensemble.
Voilà, il faut dire en fait qu'ici, donc tout près de la salle de Neder, il y a un grand immeuble où tous les joueurs, tous les Américains en majorité, vivent ensemble. Voilà. Donc, ça participe
à l'esprit d'équipe. Et pour vous donner un exemple, Brandon Ubel et Alexandre Likodjevski, ils habitent tous les deux au troisième étage. Il n'y a que leurs deux appartements au troisième étage. Les portes sont ouvertes. Les portes de l'autre, donc ils vont chez l'un chez l'autre, et ça crée évidemment des liens en dehors du terrain, et ça se ressent aussi dans le plaisir
sur
les joueurs. Il suffit de regarder les visages de mes joueurs, ils sourient tout le temps.
Donc 2013, 2014, 2014-2015, on va dire ces deux saisons à peu près similaires, d'apprentissage
tout à fait.
Par contre, la saison 2015-2016, elle commence par l'arrivée de Guy Mouya.
Oui.
Comment Guy Mouya, donc le capitaine des Lions à l'époque, se retrouve chez vous?
Ouais, ça, il faut lui demander. Non, parce que je lui ai demandé, évidemment. Je lui ai sans doute demandé gentiment. Je crois que c'était important. Donc, il y a eu une évolution sur ces deux premières saisons. On a vraiment joué de mieux en mieux au basket, mais pas encore suffisamment bien pour accrocher les playoffs. Et on s'est dit, qu'est-ce qui manque ? Il manque un leader. Il manque vraiment quelqu'un qui va être mon relais dans les vestiaires, sur le terrain, qui va croire d'abord dans ce qu'on fait, qui va adhérer à la stratégie, à la vision et à la direction qu'on a décidé de prendre, et qui va aider aussi à convaincre, à tirer les joueurs dans la même direction. Et il continue à le faire aujourd'hui avec brio, avec classe, avec...
Et c'était important de trouver, qui plus est, un joueur belge qui est ce leader.
Mais chez nous, et je vous invite vraiment à en parler avec les joueurs, il n'y a pas de Belges, d'Américains, il y a des bons joueurs de basket. Des joueurs qu'on respecte, des gens, des personnes que je respecte, qu'on respecte et qu'on traite correctement et encore une fois avec respect. Et donc, moi, ça m'est égal. C'est Domine Loubry qui termine les matchs dans les moments importants. Offensivement, il est belge, je m'en fous. C'est un bon joueur de basket, il amène ses qualités. Et d'ailleurs, je pense qu'on est probablement l'équipe qui, fait jouer le plus de Belges, sans doute avec Ostende, parce que c'est vrai qu'ils en ont beaucoup aussi. Mais... je pense qu'on doit être premier en termes de contribution des joueurs belges au point marqué. Ouais. Et donc, on a des joueurs qui ont des vraies responsabilités.
Oui, c'est différent d'avoir un Belge dans son effectif, mais de ne pas le faire jouer.
Il faut déjà le faire jouer. Et puis après, comme notre philosophie offensive, c'est de partager le ballon, c'est de partager les responsabilités, c'est de mettre chacun devant ses responsabilités. Forcément, les Belges, ils sont là aussi pour jouer, pour marquer, pour shotter, pour prendre des responsabilités. On le voit avec Loubry, on le voit avec Likodjevski, on le voit avec Mouya. L'évolution de Maxime Depeut est extraordinaire sur les 4-5 dernières années. Aujourd'hui, c'est un vrai joueur de D1 à part entière.
Parce qu'il faut dire que Maxime Depeut est avec vous en Division 2.
Ouais, ça fait 5 ans qu'il est arrivé tout petit, là. C'est un jeune gamin. C'est pas mal, hein, ce qu'il est en train de faire.
Ouais, tout à fait.
Et aujourd'hui, on a aussi la relève avec les deux frères Fourts qui ont signé un contrat de 4 ans. Moi, je crois beaucoup dans ces deux gamins-là.
On reviendra un peu plus tard sur la formation, ce que vous mettez en place. L'année 2015-2016, également, le premier Willing Game.
Ouais.
comment ça, cette idée-là a germé dans votre tête et dans votre collaborateur ?
Très, très franchement, j'ai simplement voulu... Donc moi, j'aime le basket, vraiment. J'aime ce sport. Et je trouve que ce qu'Anvers fait avec The Night of the Giants, c'est formidable. Et on a simplement voulu, j'ai simplement voulu copier. Voilà, c'est pas bien, mais au moins c'est franc.
Oh, c'est bien. Dans ce cas-ci, c'est bien.
Je rigole. Non, évidemment, c'est un succès. L'édition 2016 à Forêt Nationale, 6900 personnes. Et ici, on a rempli le Palais 12, il y avait une capacité de 6500, c'était plein. Quelle réponse du public ? Ça veut dire aussi qu'il y a un public pour Bruxelles.
Il faut dire qu'à Bruxelles, c'est compliqué. C'est une ville énorme. De réussir comme ça à amener les gens, c'est quelque chose de...
À Bruxelles, tout est plus compliqué qu'ailleurs.
Il faut le dire.
Je vous assure. Il faut être bruxellois. Il faut connaître la politique bruxelloise, la façon dont les décisions sont prises. Je crois que c'est un microcosme un peu de la politique nationale, mais en beaucoup plus compliqué. Et donc voilà. Il suffit de voir d'ailleurs qu'on n'a pas d'infrastructure pour comprendre que c'est un peu compliqué.
Tout à fait. Donc en 2015-2016 également, votre défense commence à gagner des matchs. Oui. Ça, c'est ce qu'on n'a pas connu dans les deux saisons précédentes.
Non, donc ça vient aussi par rapport à ce que vous me demandiez là avec Guy Mouya.
Tout à fait.
Un leader, mais aussi une meilleure défense. Et Guy représentait évidemment, un, le leadership, et deux,
la défense.
Voilà. Et donc, quand, comme coach, tu veux mettre en place des choses et tu veux dire aux joueurs, les gars, il va falloir un petit peu changer notre philosophie, parce que Loubry, c'est un joueur... Enfin, on n'avait que des joueurs offensifs, quoi. Hein. Domine, aujourd'hui, ça reste un attaquant. Guy nous a aidés, justement, à prendre cette direction défensive. Alors, la première saison 2015-2016, où on aborde ce changement, on a encore beaucoup de joueurs à vocation offensive. Sims, Gamble, qui, tous les deux, individuellement, étaient capables de faire la différence, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais donc, voilà, on avait encore beaucoup de joueurs... à vocation offensive là.
Il y avait Ryan Brown qui était capable sur
des
séquences.
Qui était pas mal défensivement, ouais. Il était capable, mais dans sa tête c'était un attaquant, c'était un shooter, donc.
Un showman.
Oui. Mais c'est important encore une fois, on est toujours dans cette. Il faut que ce soit attractif, il faut que les gens viennent et qu'ils s'amusent quoi. Et alors ce qui me plaît bien, c'est que certains supporters commencent à me dire, les deux premières années, waouh, formidable, on s'amusait à voir dunker, gamble, machin, super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on s'amuse quand on voit que les adversaires sont incapables de marquer ? Donc ça veut dire que quand on a des matchs dominants défensivement, physiquement, comme Anvers au Willing Game, il marque 61 points, ça, c'est plaisant aussi pour les gens. C'est une autre forme de basket, mais c'est plaisant.
C'est toujours plaisant de gagner.
Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça.
À la fin de cette saison, vous terminez donc en dehors du premier top, donc du top 6. Ouais. Donc vous participez au deuxième championnat, mais toujours dans l'optique de vous qualifier pour les playoffs.
Ouais.
Vous qualifiez pour les playoffs.
Ouais.
Premier tour, vous affrontez
Charleroi.
Expliquez-nous un peu cette série de playoffs qui marquera l'histoire du Brussels.
En fait, je vais te l'expliquer très simplement. Pour le dernier match de championnat, on joue à Liège et on va faire... fait rare, une mise au vert. On reste à l'hôtel et on a une réunion et donc un team building. Et moi, je demande aux joueurs simplement, les gars, quels sont les deux facteurs, ou trois, qui vont faire qu'on va réussir dans ces playoffs ? Dites-moi, chacun individuellement, ce qu'il va faire. Brandon Hubel a pris la parole, il a dit, coach, tu dois vraiment pas t'inquiéter, on va aller loin dans les playoffs. Hein ? Développe. Il me dit, on a envie de rester ensemble. Très longtemps. On a envie de rester ensemble. Et il me dit, l'année passée, à Anvers, on n'avait qu'une seule envie, c'était de rentrer chez nous.
Et parce que Brandon Hubel jouait à Anvers durant la saison 2014-2015. Voilà.
Et ici, ce n'est pas le cas. On veut rester ensemble. Et en effet, on sentait bien qu'on ne voulait pas rentrer à la maison. Quoi. Les joueurs voulaient continuer. Et alors, le deuxième facteur, je pense, c'est que le style de jeu de Charleroi nous correspondait bien. Je crois qu'on a eu un peu de chance. Peut-être qu'à la dernière journée, ils ont gagné à Alost et ils sont passés deuxième. Et voilà, mais ça fait partie du sport. Et en effet, je pense que dans le jeu, on les a dominés.
Oui, vous gagnez au Spirou Dôme, mais puis ici, un match incroyable devant une salle. Je pense qu'il y avait plus de monde que prévu.
Oui, 1500 personnes, je crois. On a fait le record ici à Néder. Je ne pense pas que l'autorisation des pompiers...
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, ensuite, vous affrontez Alost.
Oui. Quelle série.
Ouais, une autre série incroyable qui se finit donc au match 5 au Forum Alostois.
Oui.
malheureusement pour vous.
Et ici, moi, je trouve que c'était plutôt intéressant comme confrontation. J'ai l'impression que c'était le basket individuel avec beaucoup d'individualité. Il y avait le petit meneur, Kian Anderson, qui est en train de faire une super saison en Allemagne. John Toffy. Allez, il y avait beaucoup de joueurs capables de faire la différence.
Oh, il y avait les duels Toffy-Gamble. Ouais,
Toffy-Gamble aussi, les deux premiers au référendum du MVP. MVP. Et donc, c'était le basket beaucoup individuel, avec Jeremy Anderson aussi en 1 contre 1 sur le top, Kian Anderson, Toffy 1 contre 1 au low post. Et nous, on essaie d'avoir un jeu plus collectif. Et donc, c'était vraiment le collectif contre l'individuel. Et voilà, et malheureusement, c'est l'individuel qui a gagné à la fin, mais sur des détails. Mais c'était une belle série.
Une série incroyable. Qu'est-ce qui se passe après cette série dans le vestiaire à Lost? Comment sont les joueurs? Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs, surtout?
Je les remercie, parce qu'on a passé des moments incroyables ensemble. Et je leur dis qu'on est une famille, et que si, comme dans toute famille, il y a des gens qui s'en vont, etc., mais que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils sont toujours les bienvenus. Et Gamble, il est déjà revenu voir des matchs.
On l'a vu.
Il est déjà venu voir deux matchs. Il est venu à Bruxelles, il est venu voir la demi-finale de Coupe de Belgique à Ostende. Et ça reste vraiment une famille. Moi, je suis allé le voir à Bonn. Guy est allé le voir à Bonn. Donc, c'est... ça nous a marqué, je crois.
Pas que vous, j'imagine que le public doit vous en parler souvent.
Ouais. Je pense que il y avait des enfants qui étaient en pleurs. C'était rigolo. Ouais, c'est des bons souvenirs.
Et donc, à la fin de cette saison 2015-2016, Gamble vous quitte. Mm-hmm. Sims en Argentine. Mm-hmm. Brown également vous quitte. Mm-hmm. Comment ? Parce que vous l'avez dit directement, hein, on ne veut plus des individualités comme ça. Mm-hmm. On veut changer. Par exemple, remplacer Sims par Augustas, c'est pas le même.
Non, c'était un petit pari quand même, hein. C'est pas qu'on voulait plus d'individualité, moi je veux bien avoir des individualités de ce calibre là, mais c'est que défensivement on voulait essayer d'avoir encore plus de cohérence. Je voulais avoir peut-être plus de complémentarité avec Loubry, parce que Sims et Loubry, malgré tout, c'est quand même deux joueurs
semblables,
à vocation offensive. Et donc je pense que la complémentarité aujourd'hui entre Augustas et Loubry, elle est vraiment intéressante. Augustas, c'est un défenseur extraordinaire. Il va se battre jusqu'à la dernière seconde, il amène cette énergie. On peut plus facilement switcher aussi avec lui, pour parler en termes un peu plus techniques.
Et en attaque, voilà. Il vous apporte du post-up.
Il est capable de poster un petit meneur, il a une force de pénétration intéressante, il doit encore travailler sur son shot, ce qu'on est occupé de faire, mais ça ne vient pas comme ça en deux semaines. Donc je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est de, en fonction des moyens qui sont les nôtres, d'avoir des joueurs peut-être un peu plus complet. Des joueurs qui jouent vraiment des deux côtés du terrain pendant 40 minutes. Le meilleur exemple de ça, c'est Augustas. Simmons, il est toujours présent défensivement, il fait toujours ce qu'on lui demande. Alors parfois il se trompe, parfois il est un peu en retard. Mais
il y a l'envie.
Il y a l'envie, il y a la volonté, on n'a rien à dire. Chris Dow, c'est le talent naturel.
Voilà, ça, c'est quelqu'un de plus flashy, de plus showman toujours. Donc voilà.
On a besoin d'avoir des gens qui font des, qui amènent le plus domine. Il est capable de se faire lever le public. On a besoin de ça aussi pour continuer à attirer le public. Et Chris, c'est vraiment le talent. Hein,
c'est le talent à l'état pur.
Voilà. Et donc ce qu'on doit faire avec Chris, c'est l'amener un à être conscient de son potentiel et puis deux à être consistant, constant défensivement dans certains, par exemple off the ball, donc quand il ne doit pas défendre sur la balle, il a tendance à perdre un peu de focus, à tourner la tête et à se faire battre dans un cut, etc. Donc il faut que, chaque semaine je lui montre des clips et ça s'améliore déjà. Ses déplacements, il a un jeu de jambes incroyable sur le ballon, il n'y a personne qui le passe, mais quand il est off the ball, je ne sais pas pourquoi, il est un peu plus relax, il est cool.
Concentré sur le ballon.
Voilà, alors qu'il devrait pouvoir faire des rotations un peu plus rapides. Ça, c'est un premier aspect de son jeu qu'on essaie d'améliorer. Et le deuxième, c'est aussi sa relation à l'arbitrage. Au début de saison, il avait un body language qui était vraiment... Il dit, mais coach, je ne dis rien aux arbitres. Ah non, tu ne dis rien? Regarde. Regarde ton corps, regarde ton body language. Ce n'est pas de la communication, ça. Tu prends ta tête entre tes mains. On dirait que tu pleures sur le terrain. Évidemment que tu communiques à l'arbitre quand tu fais ça. Et donc, si vous regardez maintenant son body language, son comportement, il n'est pas encore idéal, mais il a déjà nettement amélioré tout ça.
Et vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé avec Chris Doe, justement, pour le faire changer, quand vous l'avez privé de salaire, retenu de salaire, plutôt.
En fait, ce qu'on lui a dit, donc on a un système, effectivement, d'amende qui est là pour ne pas être appliqué. Vraiment, l'idée, ce n'est pas d'économiser de l'argent et d'aller chercher dans le portefeuille des joueurs. Loin de là, mais c'est un outil de gestion et surtout pour améliorer le gamin, le joueur qui en a besoin. C'est ce qu'on a fait déjà l'année passée avec Gamble. C'est ce qu'on a refait cette année avec Chris. On lui a dit, écoute, on va, défaut technique là, on va mettre l'argent ici sur le côté. Et si tu comprends bien ce qu'on essaie de t'expliquer, on va te le rendre. Ce qui s'est passé, on lui a rendu. Voilà. Et donc on voit qu'aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus respectueux des arbitres et il a plus de respect en retour des arbitres. Et il s'occupe plus de son jeu à lui et moins de ce que font les arbitres. Et donc je crois que c'est comme ça qu'on doit continuer à progresser. On a très très peu de fautes techniques. Hein. C'est complètement inacceptable pour nous d'avoir des fautes techniques.
Ça, c'est une philosophie.
Oui, même si parfois j'en ai pris cette saison. Donc moi aussi, je fais partie de ça. Et donc le président me rappelle souvent que c'est important d'être correct et respectueux des arbitres, ce que j'essaie de faire.
Sur le bord du terrain, vous êtes énergique. Vous n'êtes pas un coach j'essaie... qui reste assis 40 minutes.
Non, j'essaie de d'amener de l'énergie au bon moment. C'est-à-dire que si, comme coach, tu commences, tu es à 10 000 tours minute quand le match commence. Voilà.
On en connaît.
Voilà. Oui, mais c'est pas... moi, j'essaie d'être calme. Et quand il faut, quand je sens que c'est maintenant qu'il faut pousser, là, j'essaie d'amener cette énergie, etc. Mais le plus important, je crois que c'est de montrer à tes joueurs que tu es serein. Et c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, que tu as confiance en eux, que tu as confiance dans tes systèmes, qu'ils soient défensifs ou offensifs. Je crois que c'est ça qu'il faut montrer aux joueurs. C'est la sérénité. C'est important.
On va passer donc à la saison 2016-2017, la saison actuelle. Ouais, ouais. Donc début de saison, vous recevez un coup de fil d'AFIBA. Et ouais, qu'est-ce qu'elle vous dit?
Ouais. Bah que si on veut... Il était 9h du matin, je crois. C'est la Ligue qui avait été contactée par la FIBA qui nous appelle en disant, voilà, si vous voulez, vous pouvez jouer en FIBA Cup, mais il faut la réponse pour midi.
Donc 3h pour tout
voilà,
organiser.
On avait 3h et je pense qu'à 10h30, on leur a dit, c'est bon, on y va. On a passé 3-4 coups de fil parce que ça coûte de l'argent, évidemment. Donc il fallait voir un petit peu si on pouvait réunir les finances pour ça. Et ça s'est fait rapidement. Et quelle expérience on a. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui pour nous, au mois de mars, on a fait 5 sur 5. Et on a gagné quelques matchs en fin de match avec des possessions intelligentes, avec de la maturité, je crois, sans être certain. Mais je crois que c'est l'effet Coupe d'Europe qui est en train d'être digéré et d'être intégré par le groupe.
On va y revenir peut-être un petit peu plus précisément sur cette Coupe d'Europe. Donc vous avez affronté Chalon.
Ouais, qui joue la demi-finale.
Voilà, contre Ostende. L'Alba, donc, qui est actuellement en tête en Hongrie.
Ouais.
Et Benfica, qui est actuellement deuxième championnat du Portugal.
Ouais.
Donc, vous n'avez pas été gâté par le
tirage.
Non,
on n'est pas tombé dans un groupe facile, mais on est tombé dans un groupe intéressant.
Voilà.
Et quand on analyse nos matchs, par exemple, Chalon, on est à 77-79 ici, à 1 minute 26 de la fin. Et chez eux, on est à moins 1 à 35 secondes de la fin.
Donc et c'est là où des gars comme Robertson, voilà, là-bas, font la différence.
Ces deux matchs-là, c'est John Robertson qui ici, en 1 minute 26, il met deux paniers à 3 points. Et là-bas, il met un panier à 3 points à la dernière seconde sur la tête de Chris Dow pour finalement l'emporter de 4 points. Mais je veux dire, on était là. On était là ici, on était là à Chalon. Contre l'Alba, là-bas en Hongrie, on fait, selon moi, aussi un très bon match, mais on ne prend pas les bonnes décisions, notamment au troisième quart, dans des moments importants. Mais je trouve qu'on a répondu présent et on a finalement décroché cette victoire méritée à Benfica.
Dans ce dernier match.
Ouais, non, c'était bien. C'était important pour nous aussi. Je crois que c'était un déclic et ça nous a permis de dire on est capable de gagner en Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, on a tous très, très envie de se requalifier.
Pour la Coupe d'Europe.
Pour retourner, ça c'est clair.
Mais on a vu peut-être la petite différence, c'est que les gars en Coupe d'Europe sont malins. Il y a des petites choses qu'on ne voit pas forcément sur le ballon, mais plein de petits... des box-out, plein de choses. On ne va pas rentrer dans les termes techniques, mais...
Des petits détails qu'ils exécutent un peu mieux que nous, un peu plus longtemps. On ne savait pas très bien comment appréhender cette Coupe d'Europe. Est-ce qu'on est capable de gagner des matchs? Et puis tu perds les deux premiers, les trois premiers... les gars, il y a un petit doute qui s'installe en Coupe d'Europe. Et donc, on a balayé tout ça avec notre victoire à Benfica. Mais je répète qu'on a fait une très belle Coupe d'Europe contre des équipes, comme tu as dit. Chalon, ils sont dans les trois premiers au championnat de France, deuxième. Ils sont en demi-finale. C'est quand même pas, ils ont des individualités incroyables, capables de décider des matchs. L'Alba Fervar, ils sont premiers avec quelques victoires d'avance en Hongrie. Ils ont été éliminés de cette FIBA Cup au deuxième tour, au dernier match. Vraiment, au dernier match, ils auraient mérité de se qualifier pour les huitièmes. Ce sont des belles équipes.
Dario Djerja vous a déjà appelé pour quelques conseils sur Chalon? Pas encore?
Non, pas encore. Pas encore.
Donc,
mais s'il appelle, je lui enverrai tous nos team reports, toutes nos préparations. Avec plaisir, parce que je suis évidemment supporter d'Ostende pour ce match. Je vais aller
comme
voir le match. je veux aller voir le match et j'espère qu'Ostende va faire un bon match et va réussir. Je crois qu'il y a la place. Je crois qu'il y a la place.
Bah c'est une Chalon, c'est une équipe franchement oui. énorme. Quand mais on voit Robertson, Clark, Fall, le
pivot qui fait 2m20. Harris, Nzeli, qui est un gros défenseur et capable de marquer aussi facilement. Ils ont tous des points dans les mains. C'est vraiment une bouteille. Je pense qu'ils ont 6-7 joueurs. Alors, l'avantage d'Ostende, à mon avis, dans ce duel-là, c'est la profondeur du banc.
Ils ont 10 joueurs capables de jouer tous.
Exactement. Et je pense que s'ils arrivent à sortir un ou deux joueurs clés, par exemple Robertson,
Fall,
ça risque d'être compliqué, à mon avis, parce que malgré tout, c'est difficile à arrêter un gars de 2m18. Je pense qu'il va mettre ses points, mais ce n'est pas lui qui va être déterminant. Robertson peut avoir un rôle déterminant. Clark.
Actuellement, Clark
il est, pour moi, c'est un des meilleurs 4 d'Europe, en Europe. Carrément. Donc ça, c'est des joueurs importants. S'ils arrivent à en stopper un des deux, par exemple, sur chaque match, je crois qu'Ostende a vraiment une chance.
Ah, on le souhaite, on est tous pour Ostende.
Ah ouais, c'est clair.
Donc, mais à la suite de cette Coupe d'Europe, donc, fin 2016, l'équipe est dans un creux. Ouais. Vous finissez mal 2016, tout simplement.
Oui, oui. Il faut pas se voiler la face. Je pense qu'à ce moment-là, c'est surtout mental. Les joueurs sont fatigués.
Physique un petit peu ?
Oui, probablement, mais surtout mentalement. Je crois qu'avec l'accumulation des matchs, auquel on n'était pas habitué. On est allé en demi-finale de Coupe de Belgique, donc on a joué sensiblement beaucoup plus de matchs à ce moment-là que l'année passée. Domine Loubry, il n'a jamais joué la Coupe. Enfin voilà, il y en a plein de joueurs qui n'ont jamais joué autant de matchs. Et donc, c'est vrai qu'on a mal terminé. Je crois qu'à ce moment-là, on était en pleine phase de digestion de tout ce qui nous était arrivé en Coupe d'Europe.
Et puis la fin 2016 aussi, Dino Pita vous quitte.
Oui, alors on a été assez malheureux, je crois, sur ce dernier joueur là qui pour vraiment avoir un bel équilibre. Chavon Lewis, c'est pas un mauvais joueur, il est en train de bien jouer en Pologne. Je suis content pour lui parce que c'est vraiment un chouette gamin.
Donc c'est le joueur que vous aviez engagé au début de saison, mais qui n'a pas convenu que vous avez directement.
Peut-être pour être franc, peut-être que je vous dis encore une fois, moi comme coach, j'ai pas beaucoup de certitudes. Mais peut-être que là, on a fait une erreur. Peut-être qu'on aurait dû maintenir notre confiance un peu plus longtemps.
Être plus patient.
Voilà, être plus patient. On voit qu'il est capable de bien performer. Maintenant, il y a aussi, et je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais quand vous payez un joueur un certain prix, vous attendez quand même un return. C'est ce qu'on avait essayé d'expliquer à l'agent de Chavon. Si le prix avait été un peu plus bas, on aurait forcément été plus patient. Mais là, pour ce prix-là, allez, pour nous, voilà. On avait besoin d'avoir un return immédiat. Et donc, ce qu'on savait, c'est qu'il fallait un joueur peut-être plus shooter, d'où Dino Pita.
Ah oui, sacré shooter.
Mais Dino, pour shooter, pour marquer, comme tous les shooters, ils ont besoin d'être en confiance. Et donc, il a besoin d'avoir beaucoup de temps de jeu, de sentir la confiance du coach. Or, ici, moi, je n'étais pas capable de lui offrir ça parce qu'à côté de lui, il y a des bons joueurs.
C'est ça, peut-être qu'en venant ici, il s'attendait à jouer 30 minutes, mais
oui,
malheureusement,
je pense. Pourtant, j'avais été très clair avec son agent en disant, voilà, c'est 15 minutes, no problem. Et donc, en fait, il s'est avéré que c'était un problème. Et Dino, c'est vraiment quelqu'un qui se replie beaucoup sur lui et qui est fort peu, dans des situations comme ça, ouvert sur l'équipe. Alors qu'ici, avec TJ Bray, c'est tout le contraire.
Voilà, TJ Bray, parlons-en.
C'est
donc
tout le contraire.
TJ Bray qui nous a montré déjà quelques échantillons de son talent
dans
quelques différents matchs.
Je pense qu'à 3 matchs, là, il a justifié son transfert à Alost, où on gagne 82-90, où il fait un dernier carton incroyable. Contre Charleroi, il ne met pas un shot, mais il fait 0 sur 7.
Il met celui d'avec
toi. Il met le dernier shot à la toute dernière seconde. Et contre Mons, il fait un super match. Et donc, il ne faut pas oublier que... moi, je crois que c'est un garçon vraiment... waouh.
Il a été longtemps blessé.
C'est du très haut niveau de basket. C'est des petites choses que beaucoup de gens ne voient pas, qui fait bien la simplicité de son jeu en attaque. Moi, je crois que c'est du talent. Je crois que c'est du très haut niveau de jouer simplement, de passer la balle à l'homme ouvert, que le ballon arrive toujours où il doit arriver avec lui. Défensivement, il comprend les rotations. Il anticipe même un petit peu ce que l'attaquant va faire. Il est toujours bien placé en général. Donc, c'est vraiment pour moi du très haut niveau. Et quand son shot rentre, et quand il met dans sa tête qu'il doit être agressif. Exemple, première mi-temps à Liège, il met 10 points.
C'est un niveau au-dessus encore.
Voilà, c'est un joueur qui va peut-être faire la différence, qui va peut-être être un facteur X pour notre fin de saison. En tout cas, c'est un joueur comme ça que moi je voulais. On voit qu'il est encore irrégulier et je crois que c'est beaucoup dans sa tête. Et on se parle souvent et je lui impose rien, je lui montre des clips et je lui dis, voilà.
Tu peux
vas-y,
faire.
Vas-y, réfléchis maintenant. Vas-y, réfléchis à ça. Est-ce que là, tu n'aurais pas dû attaquer ? Est-ce que là, tu n'aurais pas dû shooter ? C'est un joueur excessivement collectif, parfois un peu trop. Donc je crois qu'il faut continuer à travailler sur son agressivité. Il y a évidemment, et tu l'as dit, l'impact de sa blessure. Il n'a quand même pas joué pendant 5-6 mois.
C'est énorme.
C'est énorme quand on voit l'expérience qu'on a eue avec Lorenzo Giancaterino qui revenait de blessure, où on pensait que lui aussi, nous aussi, on s'est un peu trompé, il a besoin d'un peu plus de temps. Ben on voit que TJ ici, quand même, il arrive à faire des bonnes prestations, mais il est encore un peu inconstant. On a encore 2 mois.
Voilà, parfois, il manque en fait d'agressivité en attaque, tout simplement.
Clairement. Et c'est pour ça que je lui montre ces clips. Je dis, regarde là. Là, il y avait un drive. Là.
Prends-le.
Vas-y. Ou là, il y avait un shot. Mais je lui dis, je ne suis pas certain. Mais je veux que tu réfléchisses. Voilà, c'est sympa. C'est un garçon intelligent. Donc, il s'en va, il réfléchit. Et comme ça, on avance.
Donc, on voit clairement, vous confirmez par rapport à la saison passée. Début 2017, vous reprenez bien. Ouais. Plutôt bien.
Ouais.
Et là, jusque mars.
C'est ce que Guy m'avait dit, Guy Mouya, avec son expérience, il a dit « t'inquiète pas coach, ici on est vraiment fatigué mentalement, etc. Tu vas voir, à partir de janvier, ça va aller plus fort. » Et en effet, moi je trouve qu'on a fait des bons matchs, on a eu quelques défaites, on a perdu à Ostende d'une dizaine de points, mais tout en jouant bien. On a perdu au Limbourg de 6 points, mais à 2 minutes de la fin c'est égalité. Et on a perdu malheureusement ce match-là, il a fait mal à Louvain, où on mène de 7 points, il reste 1 minute 20, ils ont shoté.
Mais il faut dire qu'à Louvain, qui n'était pas là ?
Guy Mouya n'a pas joué, en effet, mais donc, on a fait des erreurs de switch, on a fait des erreurs sur leur ball screen, et on a laissé leur grand, surtout Saman, et de la lieu ouvert à 3. Enfin, ouvert, il s'était contesté quand même, mais on aurait pu mieux faire défensivement, mais voilà, je trouve qu'on est clairement en progrès depuis le mois de janvier.
Mais donc, au classement, donc à domicile, vous êtes deuxième, une seule défaite contre Ostende. Par contre,
on est premier égalité. Hein,
voilà, premier égalité.
Ostende a aussi perdu une fois. Donc on est à 13-1.
Une défaite, quoi. Et voilà. Par contre, à l'extérieur, c'est un petit peu moins bien. Mais ça a toujours été en fait le problème du Brussels. Ouais. Vous performez moins bien à l'extérieur qu'à domicile.
Ouais, mais alors, il y a une différence quand même. D'abord, avant de parler de ça, effectivement, on confirme par rapport à... Hein, tu parlais de confirmer. Je crois que c'était quand même le plus difficile. On est en train de confirmer et de quelle manière ?
De bien confirmer.
Voilà. Et je pense qu'en déplacement, d'abord, maintenant, on a gagné 4 matchs. On a gagné 2 fois à Lost. On a gagné à Liège. Que 3 matchs ? Non, on a gagné 4. Ah, on a gagné... non, je ne sais plus.
Vous avez perdu au Limbourg, vous avez gagné à Lost, perdu.
Non, je crois qu'on est à 4, mais bon, peu importe. Là, j'ai un trou de mémoire. Mais quand on analyse nos matchs en déplacement, allez, on a perdu de 3 points à Mons, on a perdu de 2 points à Louvain. En Coupe de Belgique, on a perdu de 2 points à Ostende. On a perdu de 6 points au Limbourg. On est vraiment capable de... On est là, quoi. On est là. Après, ça se joue sur des décisions... et on va pas tous les gagner ces matchs qui vont jouer à 2-3 possessions, mais on est là, on est dans tous les matchs. Là où l'année passée et au premier tour, on a quand même perdu beaucoup de matchs allez, on n'était pas dans le match, quoi. Voilà, on n'avait aucune chance, on n'avait pas de possession pour faire quelque chose, alors qu'ici en déplacement, pratiquement à chaque match cette saison, on a eu des possessions pour peut-être gagner le match.
Il faut rappeler que vous êtes 3e au classement, donc que vous allez vous qualifier pour les playoffs, somme toute logique, voilà. Et donc, quel est votre objectif ici sur cette fin de saison ? Qu'est-ce que vous espérez ?
Alors, pour la fin de saison, c'est compliqué. J'espère 2 choses. J'espère, un, pouvoir continuer à gagner un maximum de matchs parce que les places qualificatives pour la Coupe d'Europe, elles sont essentiellement attribuées par rapport à la saison régulière, plus que les play-offs. Il y a une pondération beaucoup plus importante. Et donc, je pense que les 2e et 3e de la saison régulière seront quasi certains d'une place soit en Champions League, soit en FIBA Cup. Et ça, c'est important pour nous. Donc protéger cette place. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, terminer dans le top 4, ça veut dire qu'on a l'avantage du terrain en quart de finale.
Au Brussels, l'avantage du terrain, voilà,
ça peut être prédominant. Donc ça, c'est important. Et le deuxième objectif, tout en essayant de remplir le premier, c'est-à-dire continuer à gagner, c'est reposer les joueurs. C'est que les joueurs soient mentalement et physiquement à leur top quand on va aborder les playoffs. Et ici, on a quand même quelques joueurs. Guy, qui a toujours cette inflammation au pied, donc qui n'a pas joué mercredi à Liège, qu'on doit essayer de gérer intelligemment. On a Liko Jevski, qui a son âge et à qui on doit donner du repos. On a Jubel. Ouais, mais Maxime, il sera là dimanche prochain. Mais on a surtout on a 3 intérieurs avec lesquels je tourne. Et donc, Jubel, ça va parce qu'il est encore jeune. Mais Simons, il a besoin maintenant, je sens qu'il commence à être un peu fatigué, d'où il a joué que 20 minutes à Liège. Donc l'objectif, c'est d'essayer de gérer intelligemment le groupe tout en ne perdant pas de vue
les objectifs,
le classement. Donc c'est compliqué.
Donc vous l'avez dit, vous avez mis un petit peu Simon sur repos, Lixo a des problèmes, donc qui est rentré dans la rotation, Jonas, Fourth.
Tout à fait.
Donc vous voulez reposer des joueurs, c'est-à-dire que Jonas Fourth, son petit frère Nils vont rentrer un petit peu plus dans la rotation.
C'est l'idée. Et donc je leur parle beaucoup en disant maintenant tu dois être là, vous devez être là, vous devez être prêt. Ils nous ont rendu des services incroyables au cours de la saison. Je prends un exemple à Alost.
Nils.
Ouais, il a fait. On est nulle part. On est à moins 14. On joue pas bien. L'Oubri est pas bon en défense, donc j'y allais hop sur le banc. Vas-y Nils. J'ai mis Nils et Jonas et puis à un moment je suis là comme ça, je dis mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et on revient à moins 7. Hop, en 5 minutes, ils ont changé le cours du match. Nils, il a montré le chemin qu'on devait prendre. Et d'ailleurs, après le match, quand j'ai félicité les joueurs pour la victoire, j'ai dit, les gars, aujourd'hui, il faut être honnête, c'est le gamin, là. C'est le gamin qui a montré par où on devait passer. Quoi. Et tout le monde l'a applaudi dans le vestiaire. Donc, voilà, moi, je crois que c'est des joueurs. D'ailleurs, ils ont un contrat pro, ils sont joueurs à part entière. Et donc, le groupe leur fait confiance. Quoi. Et donc, maintenant, ça va être à eux de montrer, de prouver, de nous aider quoi. Ils sont là pour ça, c'est des vrais joueurs du groupe. J'ai dit depuis le début de la saison qu'on aura besoin de tout le monde. Et Jonas, ici à Liège, il a un peu joué à l'envers, il a shoté quand il devait pas shoter, il a refusé des shots qu'il devait prendre. Donc ici il faut encore il faut le remettre à l'endroit, il faut le remettre dans le bon chemin. Mais c'est un garçon intelligent, donc ça va aller.
Donc vous l'avez dit, Jonas Fourth, Nils Fourth, des jeunes. Des jeunes, on va en parler un petit peu plus de votre formation. Est-ce que ça vous intéresse réellement d'avoir un joueur formé Brussels, donc d'avoir l'étiquette Brussels? Et si oui, qu'est-ce que vous mettez en place? Donc on sait que la formation, ce n'est pas en 2 ans, en 3 ans.
Non, non, non.
Travail de formation, ça monte déjà chez les très petits.
Ouais.
Et donc qu'est-ce que vous mettez en place ici avec le club pour avoir des joueurs qui sortent avec l'étiquette Brussels?
C'est un travail de longue haleine. Donc, ce qu'on a, d'abord, on a 300 jeunes. Ce n'est pas tous des élites. Donc, il y a aussi un aspect social qui est très important pour nous, je le souligne, parce qu'on opère dans des quartiers comme Bruxelles-Ville, Laeken, Neder-Vrembeek. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qu'on est capable de sortir de la rue, en fait, et qui font... Voilà, donc ça, c'est très important pour nous. On fait d'ailleurs énormément d'activités sociales. Après, il y a le côté plus... les meilleures équipes, donc le côté plus élite, si je peux l'appeler comme ça. Alors nous, on a mis l'accent, la stratégie du club n'est pas d'aller chercher les meilleurs joueurs des clubs avoisinants pour gagner toutes les catégories de jeunes de 80 points, gagner toutes les coupes à WBB, ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une bonne équipe de U21, qui est pour moi la continuité, qui doit représenter un tremplin ou une passerelle pour l'équipe première. C'est la raison pour laquelle on demande aux Fourth de jouer en U21. On a les deux frères Samardzic, qui sont vraiment des espoirs, qui n'ont pas été formés au club, mais qui sont là, ils sont ici depuis l'année passée, 15 ans. Voilà. Et moi, je rêve de faire avec eux ce que j'ai réussi à faire avec Maxime De Poet. Ce qu'on est occupé à faire avec Jonas et Nils, qui sont là depuis 3 ans, depuis qu'ils ont 16 ans, au club. Donc c'est réellement ça l'objectif. On a quelques bons jeunes... des U14, des U12, où on peut déjà dire, allez, peut-être que... Ou en tout cas, on ne peut pas encore dire non, toi, tu n'y arriveras jamais. Donc, on a vraiment des joueurs prometteurs. On en a 5-6. On va sans doute transférer un jeune gamin, très, très bon, 17 ans, aussi un prospect. Et donc, l'idée, c'est de prendre vraiment des joueurs... Pour moi, la formation, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire, allez, c'est quoi un bon formateur? C'est pas quelqu'un qui gagne tous ses matchs, c'est pas quelqu'un qui gagne toutes les coupes, c'est quelqu'un qui a sorti des jeunes qui sont capables de jouer en D1, et puis peut-être à l'étranger, et puis peut-être un jour en NBA, et qui vont aller en équipe nationale. C'est ça un vrai formateur, c'est un coach de jeunes qui crée des talents. Et donc nous on essaye je crois que la période 17, 18, 19, 20 ans, c'est une période capitale pour l'évolution du sportif.
Vous avez parlé de vos U21, qui d'ailleurs ont été en finale de la Coupe WBB. Malgré que ce ne soit pas l'objectif, comme vous le dites.
Non, non, non. Mais
voilà. Gagner des matchs, ça fait toujours plaisir.
Bien sûr, c'est ce qui fait avancer la machine aussi. C'est ce qui met un peu de l'huile dans le moteur. C'est ce qui donne encore un surcroît de motivation. Mais ce n'est pas l'objectif premier. Mais ici, Charleroi était beaucoup plus fort. L'année passée, on avait gagné cette Coupe à WBB en U21. Et si on va en finale, voilà, je crois que c'est ça qu'on essaie de faire. Et surtout d'intégrer tous ces jeunes gamins. Là, j'ai parlé des Samardzic Les Fourths, maintenant, ils sont dans le groupe, mais l'année prochaine, l'idée, c'est que les Samardzic, par exemple, c'est que le nouveau gamin qui va venir, et peut-être un ou deux autres, vont intégrer tous les entraînements, ou en tout cas la majeure partie des entraînements de l'équipe première. C'est réellement là que ces gamins progressent.
Parce que là, ils sont présents, mais à certains entraînements. Pas
oui, les Samardzic, ils vont encore à l'école. Nous, on s'entraîne à 15h, 16h, donc c'est compliqué à concilier avec l'école. Mais je crois que continuer à étudier, c'est absolument indispensable. Je ne peux évidemment pas me substituer au rôle de parent de tous ces enfants, mais je ne vais jamais dire qu'il faut arrêter les études et faire que du basket. Pour moi, c'est impossible. Je pense qu'ils doivent continuer, avoir un diplôme et essayer de combiner ça, comme le fait très intelligemment Maxime Depeut. Il étudie. Il a fait ses 3 ans d'éducation physique en 5 ans, mais au final, cette année-ci, normalement, il devrait avoir son diplôme. Je crois que c'est ça qu'il faut faire.
Mais le seul petit bémol, peut-être, c'est entre cette transition U21-D1, il y a un pas de géant.
Oui.
Et c'est votre deuxième équipe qui est seulement en première provinciale, entre guillemets.
Oui, alors, j'ai un avis partagé là-dessus, ou peut-être fort là-dessus. En tout cas, c'est notre vision. Nous n'avons pas besoin d'avoir une deuxième équipe en D2 ou en D3. Il y a le système de double affiliation d'abord qui fonctionne, qui a aussi ses désavantages, mais qui en tout cas pour Maxime Depeut avec Saint-Nicolas a très bien fonctionné. Pour les Fourths ici, ça fonctionne pas mal. Et je vous dis encore une fois, le plus important, c'est de pouvoir participer aux entraînements de D1. C'est là que les gamins progressent. Dans leur deuxième équipe, ils doivent s'amuser, ils doivent prendre du plaisir. Ils doivent vraiment prendre du plaisir pour arriver aux entraînements de D1 avec le sourire, avec
libéré.
J'ai fait un bon match, je me suis amusé, maintenant je vais progresser. Je vais recevoir des coups, le coach va essayer de m'expliquer comment je dois faire. Enfin, voilà, donc, en tout cas, c'est notre vision. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une équipe en deuxième ou en troisième
division. Ouais, c'est une vision comme une autre. Hein.
Voilà.
On voit que d'autres équipes de division ont une vision différente.
Voilà, et ça marche aussi. Donc, voilà, je crois que tous les modèles existent. Il y a un modèle qui me plaît assez bien, c'est celui d'Ostende, qui a un club, qui est Gistel, avec lequel il collabore.
Chez qui ils envoient à peu près tous leurs jeunes.
Voilà, et ils étaient en D3 il y a quelques années, avec quand Boukichou jouait encore, etc. Et là, ils ont été champions, et maintenant ils sont en D2.
Avec Lambrecht, Emmeler.
Voilà, Lambrecht, Emmeler, etc. Et Batista, d'ailleurs. Et ça marche très bien. Je crois que ça, c'est intéressant. Si on pouvait trouver un club de la région bruxelloise avec lequel on pourrait collaborer, partager la même vision, et que les dirigeants des deux clubs aient vraiment envie de travailler ensemble, je crois que ça, ce serait un bon setup.
Mais on est à Bruxelles.
Oui, mais vous savez, tout le monde parle du basket bruxellois, que personne ne s'entend. Je crois que tout le monde exagère, c'est pas vrai. Et puis, si vous allez à Anvers, à mon avis, c'est 10 fois pire là-bas. Hein. Donc, tout le monde, il y a des clubs qui sont amis, puis des clubs qui sont ennemis. Un autre exemple, à Liège, qui est quand même une province de basket comme Anvers. Si vous allez à Juppy, je crois qu'il y a 3 cafétérias différentes parce qu'ils se sont un jour disputés. Il y a l'avenir Juppy, il y a Vaillant Juppy, etc. Et donc, voilà, je crois que ça existe partout.
Parlons un petit peu maintenant des infrastructures. Donc, durant le Wheeling Game, vous avez été à Forêt Nationale.
Ouais.
Succès incroyable, quasiment 7000 personnes. Vous avez été au Palais 12, 6500 personnes, donc capacité maximale, comme vous dites. Mais la majorité de vos matchs à domicile, enfin la totalité, sont ici.
Oui.
Le Canet de Roverenbeek, la petite salle, le chaudron, comme certains l'appellent, parce que ça fait du bruit.
Ouais.
C'est toujours rempli. Mais pour progresser, est-ce que vous n'avez pas besoin d'autre chose ?
Si. Alors, je pense qu'on a encore une période de transition. On ne doit pas quitter Neder absolument aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'avoir, au niveau sportif, quand même, une salle à la mesure de nos ambitions. Et peut-être, sans être présomptueux, de nos résultats actuels. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on a des heures de salle qui sont fixes. C'est compliqué pour moi, au-delà de tous les impératifs complexes pour la gestion de l'équipe première. S'ils sont fatigués, je peux pas bouger les heures. C'est à cette heure-là et pas autrement. Au-delà de ça, je pense que pour la formation des jeunes dont on a parlé, les gamins, les 5-6 gamins là, qui sont vraiment à haut potentiel, on devrait avoir plus de plages encore individuelles dans la journée. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc, pour moi, ça, c'est la raison principale pour laquelle on devrait avoir une autre salle.
Parce qu'il faut dire qu'ici, vous partagez le complexe avec d'autres clubs.
Avec les écoles, avec d'autres clubs. C'est une salle communale, quoi. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a plein de lignes là et que ça nous coûte très cher pour payer une société qui vient mettre des tapes sur les lignes pour les matchs. Donc ça c'est important. Après aussi au niveau commercial, je crois qu'on passerait dans une autre dimension, qu'on pourrait aller toucher des sociétés comme Proximus, comme des sociétés vraiment importantes, si on avait un lieu prestigieux où on pouvait accueillir nos partenaires. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien ce qu'on fait, au contraire, je pense que les partenaires qui viennent à nos repas VIP sont satisfaits, je crois qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour les accueillir. D'ailleurs, je suis assez fier de pouvoir dire qu'en 4 ans, on a perdu un partenaire, et c'est pour une raison complètement indépendante de notre volonté, c'était des gens qui venaient de Gand et qui n'arrivaient plus à remplir leur table VIP, parce que, voilà. Et en plus, à ce moment-là, Gand venait de terminer la Gelamco Arena, donc ils avaient envie d'aller au foot. Mais clairement, un outil commercial moderne, avec des loges, avec des espaces VIP, avec des réceptions, voilà, de standing, nous permettrait de passer dans une dimension complètement différente au niveau commercial et donc au niveau financier, ça c'est clair.
Mais vous n'avez pas peur de perdre cette authenticité, c'est-à-dire qu'ici, Neder, voilà, c'est le Brussels, c'est authentifié Brussels, on sait que ça va être chaud, on sait qu'il y aura du monde, on sait que ça va être plein. Tandis que si par exemple vous avez une salle de, on va dire, 4-5 000 personnes, on ne va pas se mentir, ça ne sera pas plein à tous les matchs.
Non, alors je crois que c'est important ce que tu dis, il y a deux choses. Un, on n'est pas obligé de jouer tous les matchs dans une grande salle. On peut continuer à jouer des matchs à Neder, je crois d'ailleurs que c'est peut-être important. Deux, dans cette grande salle, si on se rend compte à l'avance, et on sait maintenant, on a l'expérience, là il y aura beaucoup de monde, ici ce sera un match où il y aura moins de monde, on peut très bien diminuer avec des rideaux la capacité de la salle. Par exemple, à Liège, ils cachent le tour supérieur avec des rideaux noirs quand il n'y a personne. Voilà, je crois que ça c'est facilement gérable. On parle peut-être de jouer plus de matchs au Palais 12, je ne sais pas, on est en train d'analyser des pistes. Au Palais 12, on est tout à fait capable, avec un grand rideau, dans la grande tribune, là, de réguler le nombre de places qu'on va offrir dans ces tribunes. Et ces rideaux offriraient en plus une visibilité incroyable. On peut mettre des logos. Donc je pense que tout ça est gérable. Je crois que ce qui est surtout important, c'est d'offrir de l'hospitalité, de haut standing à nos partenaires. Ça nous permettra clairement de toucher plus de sociétés.
Donc le Palais 12 est une option pour jouer quelques matchs, pas tous les matchs.
Non, le Palais 12 est une option. Évidemment, le principal problème d'achoppement, ça va être un accord financier, parce que le Palais 12, c'est cher. Voilà, on discute aujourd'hui avec la ville, avec la région, mais aussi avec des sociétés privées qui ont notamment des terrains intéressants dans le centre de Bruxelles. On discute des opportunités de construire une salle qui pourrait être une salle temporaire, c'est-à-dire peut-être 5, 6, 7 ans, à moindre coût, dans des structures qui pourraient être existantes, pour pouvoir accueillir le basket, mais aussi le volley. On parle du club Aslenik qui joue maintenant à Alost. On pourrait très bien concevoir que les gens qui gèrent cette salle pourraient avoir un accord avec la fédération de hockey pour le hockey en salle, en hiver. La finale s'est jouée au Spirou Dome. Il y a un boxeur bruxellois que je connais un petit peu qui performe très bien, qui s'appelle Riyad Mehri, qui fait ses matchs au Spirou Dome. On pourrait aussi concevoir qu'il pourrait faire des combats dans cette salle à Bruxelles. On pourrait imaginer des matchs peut-être de tennis ou un tournoi de tennis ou la Coupe Davis ou que sais-je. En tout cas, si on est créatif, on pourrait mettre 5-6 sports différents dans cette salle temporaire. Et l'avantage, c'est qu'elle coûterait beaucoup moins cher qu'une nouvelle salle, qu'on estime à 15 millions à peu près. Donc ici, on serait dans des ordres de grandeur complètement différents, puisqu'on parle de structures qui existent pour la majeure partie. Et ça permettrait, à moindre coût, d'avoir un test de cette espèce de modèle de salle polyvalente à Bruxelles pour les différents sports. Et si ça fonctionne bien, dans 5, 6, 7 ans, on pourra construire la nouvelle salle à ce moment-là.
Et parce qu'il faut dire que si une nouvelle salle est construite, ça prend du temps.
Oui. Donc, encore une fois, on a parlé tout à l'heure de la politique à Bruxelles. On voit, ne serait-ce que pour le stade de football, que c'est compliqué. Alors que le football, c'est le sport national et qu'on a une équipe nationale qui est hyper performante et on n'arrive pas à trouver un consensus pour construire le stade de foot. Alors, il faut s'imaginer le basket. Voilà, c'est clairement compliqué. Mais je crois que pour évoluer, on a besoin de ça. Et encore une fois, en réfléchissant bien, parce que tu as raison quand tu dis si vous allez dans une salle de 4 ou 5 000 places, elle ne sera pas pleine. C'est clair qu'elle ne sera pas pleine si c'est demain. Et donc, on doit d'abord continuer à beaucoup communiquer et mettre nos fans en avant pour continuer chaque semaine à avoir plus de fans. On a parlé de notre stratégie de communication tout à l'heure qui est très active et très dirigée vers les fans. Et puis, on doit réfléchir aussi. On doit se dire, tiens, peut-être 4000 places, c'est bien, mais avec des systèmes de rideaux, avec des systèmes, voilà, on peut fermer un peu et on peut limiter la capacité à 2000 matchs pour les plus petits matchs. À 2000 personnes, pardon, pour les plus petits matchs.
Mais qu'est-ce qui manque ? Donc, on voit que le Brussels, troisième au classement, je le répète encore une fois. Qu'est-ce qui manque au Brussels pour faire vraiment partie du gratin du basket ? Une salle, peut-être ?
Clairement une salle. Pour moi, c'est clairement une salle. Quand on voit les performances qu'on est capable de faire sur le terrain, ça commence à devenir intéressant. Je crois défensivement, offensivement, il y a du potentiel. Je crois qu'on a maintenant prouvé qu'on est capable de faire les choses bien. Et pour ne serait-ce que, je l'ai dit tout à l'heure, pour se maintenir
à ce niveau.
À ce niveau-là, ça va être très compliqué. Et les attentes des supporters sont de plus en plus élevées, évidemment. Donc, je pense que clairement, ce qui va nous faire nous maintenir à ce niveau-là, ne serait-ce que, je ne parle même pas encore de faire mieux, nous maintenir, ce sont des nouvelles infrastructures, ça c'est clair.
Et vous n'avez pas peur que, imaginez un petit coup de moins bien, donc c'est-à-dire sportivement, qu'il y ait tout de suite un petit peu moins de monde, parce qu'à Bruxelles, on sait, quand ça fonctionne, il y a du monde, quand ça ne fonctionne pas, il y a moins de monde.
Oui, c'est clair, et puis on le voit partout, les posts sur Facebook, quand on gagne, ça marche mieux, c'est clair. Mais je crois aussi que le vrai supporter, il a la mémoire courte et il aime son club, quoi. Et après une défaite, il est là, il aide, il aime, il supporte avec son cœur. Et nous, on essaie de jouer, on joue, je peux le certifier, les joueurs jouent avec leur cœur pour les supporters. Donc je crois que c'est vraiment important de dépenser, en tout cas pour moi, beaucoup d'énergie sur cette nouvelle salle. Et je pense aussi, tous les clubs rêvent d'avoir un modèle économique qui est indépendant des résultats sportifs. Donc moi, j'aimerais bien, et il y a un club de foot qui s'appelle l'AS Nancy-Lorraine. Ils sont descendus il y a quelques années de Ligue 1 en Ligue 2. Ils ont vendu plus d'abonnements en Ligue 2. Extraordinaire, extraordinaire. Il y a des choses qu'on peut faire pour attirer les supporters. Alors, c'est vrai qu'on va se diriger vers du spectacle. Voilà, les gens, ils viennent au basket comme ils vont au cinéma. Ou ils iront demain au basket comme ils vont aujourd'hui au cinéma pour voir un spectacle. Il y a plein de choses qui se font dans d'autres pays. Je vais donner juste un exemple que je trouve extraordinaire. C'est la démonétisation de tout ou d'une partie du stade. Moi, quand je vais voir un match, je suis assis, j'ai faim, j'ai soif, comme tout le monde. Et rien qu'à l'idée de m'imaginer que je vais devoir faire une file, que je vais devoir attendre, je suis petit, donc que je vais devoir être comme ça un peu compressé dans une file, etc., j'y vais pas. Et donc, je dépense pas d'argent. Et donc, il y a certaines salles dont l'AS Nancy-Lorraine, le stade de foot, était complètement démonétisé, c'est-à-dire qu'on a une carte sur laquelle on peut mettre de l'argent. Et alors, ils avaient fait un truc sympa, 25 euros, ils rajoutaient 1 euro, 50 euros, ils rajoutaient 3 euros, le club. Et avec ça, et une application sur mon iPhone, je suis capable de dire, je voudrais 2 coca, 3 hamburgers, et on me les apporte à ma place. C'est un exemple, c'est compliqué à mettre en place aujourd'hui dans l'environnement de Neder-Vrembeek, mais je crois que c'est l'avenir aussi. C'est le fan qui vient et qui vit une expérience globale, qui se sent bien, et voilà. Et je crois que ça, c'est l'avenir. Nanterre, par exemple, ils sont en train de démonétiser, ils ont démonétisé une buvette dans la salle.
Comme test,
et ça marche très bien.
Ce que vous dites là, donc, c'est-à-dire par rapport au spectacle, etc., c'est ce qu'on retrouve, le Willing Game, c'est ça, c'est du spectacle.
Voilà.
Les gens qui,
voilà.
Toutes les 6500 personnes ne
voilà.
sont pas venues que pour voir du basket.
Non.
Il y avait des fans de basket, mais il y avait des gens qui sont venus comme au spectacle.
Évidemment. Et donc, c'est ça qu'on doit faire non plus une fois, mais 30 fois par saison. Donc, c'est compliqué, c'est une équation très compliquée. Déjà, on arrive à le faire une fois, donc ça nous donne beaucoup de courage. On a des idées, on regarde surtout ce qui se fait de bien ailleurs. Et il faut continuer à être ambitieux par rapport à ça.
Donc vous pouvez officiellement annoncer que l'année prochaine, il y aura un Willing Game.
Ah, c'est clair, il y aura une édition 2018 du Willing Game.
Une. C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal. Mais on essaie de trouver des solutions pour notre salle, quoi. Est-ce que ce sera l'année prochaine ? Ça me paraît quand même fort court. L'objectif, c'est peut-être d'avoir quelque chose ou de jouer un peu plus de matchs dans une plus grande salle en 2018-2019.
Ouais, donc on voit vos objectifs, clairement, c'est dans votre tête, la salle, c'est quelque chose de très important.
Pour moi, c'est les 25 ans du club, les 25 prochaines années du club. Et on a un vrai objectif avec le président, c'est de pérenniser le club. Un jour, il m'a dit, qu'est-ce que tu vois combien d'années? Je dis, bon, 25 ans. Pourquoi 25 ans? Parce qu'après, ce ne sera plus moi. Donc voilà, mais on a envie de vraiment pérenniser ce club, d'asseoir ce club dans le gratin, comme tu l'as dit, du basket belge.
Avant de venir sur vos objectifs personnels, on va passer peut-être à l'année prochaine. Mm-hmm. Vous pensez conserver le même noyau? Vous pensez être capable de conserver Doe, Simmons?
Ouais.
Est-ce que vous pensez déjà à autre chose?
Bonne question. Alors oui, on n'arrête pas de penser et on pense même, non, on pense évidemment à l'année prochaine, mais on a aussi une vision sur les 2-3 prochaines années. C'est la raison pour laquelle on a signé Domi Loubry. Après cette saison, il a encore 2 ans de contrat. Les Fourths, je l'ai dit tout à l'heure, après cette saison, ils ont encore 3 ans de contrat. Maxime Depoet, après cette saison, il a encore 3 ans de contrat, avec une option la dernière pour partir, mais seulement à l'étranger. Donc on essaie vraiment de réfléchir, en tout cas pour nos joueurs locaux, à plus d'un an, quoi, à moyen terme.
Clairement. Ça, c'est une ossature. Donc tous les joueurs que vous venez citer, c'est une ossature qui est là depuis un petit temps déjà. Il n'y en a aucun qui vient d'arriver. C'est vraiment l'ossature du Brussels.
C'est une vraie stratégie. Guy, on l'a signé pour 3 ans. Donc l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat. On verra un peu comment ça va se passer. Likojewski, on est en passe de le re-signer. Je pense que ça va se faire demain, après-demain. Enfin voilà, il veut rester à Bruxelles. Il veut terminer sa carrière chez nous. Il est heureux. Donc ça veut dire que déjà l'année prochaine, on aura les frères Fourts, Mouya, Depoet, Loubry et Likojewski. Ça fait déjà 6 joueurs.
Ça fait les joueurs locaux.
Ça fait déjà le squelette. Et on est en train d'essayer d'avoir un ou deux bons jeunes espoirs de 17-18 ans qui pourraient avoir une histoire à la Depoet. Donc ça, c'est déjà très important pour nous. C'est de construire l'avenir. Alors pour l'année prochaine, qui est l'avenir plus direct, on est en train de réfléchir par rapport à Augustas, qui a un contrat, il a une option en tout cas. Nous, on a une option,
vous avez une option.
Pour l'année prochaine. Évidemment, j'aimerais bien garder Simmons, j'aimerais bien garder Jubel, enfin j'aimerais bien tous les garder. Est-ce qu'on va être capable de les garder tous? Non, clairement. Je crois que Simmons, il est important, il arrive à 28-29 ans, il aime bien la stabilité, c'est une personne calme, c'est une personne qui se plaît énormément à Bruxelles et sa femme, elle trouve ça formidable.
On sait que c'est important, les femmes de joueurs.
Bien sûr, c'est important. Et donc, elle est super heureuse ici. Et je crois que ça ferait du sens pour toutes les parties d'essayer de trouver un accord sur un contrat de 2 ou 3 ans. Ça nous plairait bien.
Mais les joueurs plus jeunes, comme Jubel, Doe, avec ce qu'ils montrent actuellement...
Je crois que Doe, dans son intérêt, il devrait encore rester un an parce qu'on travaille énormément avec lui. On le développe. On développe aussi des joueurs, je crois en tout cas qu'on développe des joueurs. On l'a prouvé avec Gamble en 2 ans. On a clairement développé Gamble. Regarde où il est maintenant.
Ils sont dans l'autre demi-finale d'ailleurs de FIBA Europe Cup avec son équipe de Bonn.
Et puis ils sont dans le top 6 en Allemagne, qui est un championnat très relevé. Hubel, c'est sa 3e saison à Bruxelles. Donc déjà, on a réussi à le garder pendant 3 ans. Enfin, après sa première année de rookie, il est parti à Anvers et maintenant ça fait 2 ans qu'il est revenu. On discute aussi, on aimerait bien le garder. On verra un petit peu.
On sait qu'il se plaît ici, comme à peu près.
Évidemment,
tous les joueurs, j'ai l'impression.
Bah oui, tout le monde se plaît. Donc ça, c'est notre avantage. C'est vraiment notre avantage. Est-ce qu'ils peuvent gagner plus ailleurs? Oui. Est-ce qu'ils vont être plus heureux? Je ne sais pas.
Mais c'est surtout en fait le fait de conserver au Brussels une ossature qu'on
essaye.
Peut-être dans les autres clubs, on ne voit pas réellement. Ça, c'est peut-être une différence. C'est-à-dire que conserver un joueur 3-4 ans, c'est devenu quelque chose de rare dans le basket belge.
Oui. Et moi, je pense que c'est très important.
On voit un gars comme Justin Kay et Jamons, c'est presque une anomalie dans le paysage
du
basket belge.
On voit aussi Ostende, ils arrivent à garder, ils ont gardé Gillet pendant Salumu,
Djordjevic,
Serron qui est parti, mais enfin il était là quand même quelques années. Je crois que c'est la raison pour laquelle Ostende est si remporte tous ses succès. Une des raisons évidemment, c'est parce qu'ils sont stables. Et nous aussi, je pense qu'à Bruxelles, on est des gens stables et on essaye, en tout cas en termes d'effectifs aussi, de travailler dans la stabilité. Maintenant, c'est compliqué parce que quand le joueur fait une bonne saison, il va essayer de monnayer un peu ses services, ce qui est tout à fait normal.
C'est ça, c'est normal. Comme Gamble l'année passée fait une saison incroyable, on ne peut pas le retenir. Voilà.
Impossible.
Passons un petit peu maintenant à vos objectifs personnels. Est-ce que vous vous voyez quitter le Brussels où vous êtes un des seuls maîtres à bord? Parce qu'on n'est pas ici dans un autre club avec une structure incroyable. Ici, on a deux personnes qui parlent. Vous, le président de Candelar. On n'entend jamais personne d'autre, quasiment.
Mais pourtant, il y a beaucoup de monde qui travaille aussi. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu plus médiatisés que d'autres, mais je répète encore une fois, le Wheeling Game, c'est formidable, mais sans la centaine de bénévoles, sans tous les gens qui travaillent, j'ai dit tout à l'heure, Martin Klein, Yves Derec, etc., à l'organisation d'un tel événement, il n'y a pas d'événement. Donc, moi, je peux avoir toutes les idées du monde, si les gens ne suivent pas, si on n'a pas cette équipe extraordinaire derrière nous, ben on n'est pas où on est là.
Mais c'est pareil avec les matchs à domicile. Le nombre de bénévoles à domicile, c'est pareil.
Bien sûr.
Les stewards,
bien sûr,
etc.
Bien sûr. Et il y a plein de gens qui ont des fonctions dans le club qui sont clairement indispensables. Notre secrétaire aussi, Patrick Gillard, voilà. Ce sont des gens qui sont indispensables pour le bien-être et pour l'avenir du club. Voilà. Alors, pour revenir à mes objectifs personnels, comme je suis aussi directeur général du club, mais c'est toujours le conflit entre est-ce que c'est possible de combiner les deux. Pour l'instant, je crois qu'on est en train de montrer que en tout cas, ce n'est pas impossible. C'est vrai qu'il y a d'autres clubs où ils ont 3 ou 4 personnes pour faire ce que je fais, hein, directeur sportif, directeur commercial, directeur général, coach.
Parfois, ça, ils rentrent en conflit. On entend des gens parler, beaucoup de gens parler. Ici, au Brussels, c'est comme je disais, on entend parler, vous, le président de Cannes de l'Arc, c'est tout.
Mais on s'entend tous très bien, en fait. Évidemment, il y a des moments de tension, on ne va pas se mentir, dans une saison... Voilà, ça fait quand même 9 ans, c'est pas un long fleuve tranquille, mais il y a beaucoup d'intelligence, il y a de l'amitié, et il y a surtout beaucoup de bon sens. Et donc, voilà, comme on essaye d'être des personnes sensées, en général, au final, on trouve toujours un accord et on parle vraiment d'une même voix. Et donc, je crois que j'ai réussi à déterminer pour moi-même que j'avais envie de continuer à coacher. Voilà, si un jour je dois vraiment choisir entre la direction générale d'un club ou le coaching, je pense que je préférerais m'orienter dans le coaching, ce qui est beaucoup plus risqué, parce qu'un coach, il se fait virer, ça ne va pas...
Plus facilement qu'un directeur général.
T'as 3 mauvais matchs, t'es dehors. Tandis que la direction générale, surtout quand le directeur général s'entend vraiment bien avec le président, en général, il va rester plus... Allez, c'est beaucoup plus stable. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un directeur général que de trouver un coach. Demain, on dit, on cherche un coach, il y a 25 personnes devant la porte, et probablement 10 très compétents. Tandis que trouver un directeur général qui parle plusieurs langues, qui connaît le sport, qui a un background financier, qui sait faire du commercial, qui sait ramener de l'argent, etc. Et qui sait gérer une entreprise, c'est un peu plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué.
Mais on voit les bons résultats du Brussels, c'est-à-dire que votre coaching est bon aussi. Donc c'est-à-dire qu'il est possible que des dirigeants posent un œil Brussels,
peut-être,
coach.
Peut-être.
Est-ce que ça vous intéresserait forcément en Belgique, peut-être à l'étranger ou quoi?
Oui, en tout cas, c'est clair que souvent les gens disent « Ah, Crèvecœur, c'est un bon gestionnaire, etc. » Mais c'est un coach moyen. Bon, ok. Je crois qu'on n'arrive pas en demi-finale de play-off. Je crois qu'on n'arrive pas en demi-finale de Coupe de Belgique. Je crois qu'on n'arrive pas à la troisième place du championnat en étant mauvais coach, quoi, ou coach moyen. Et la façon dont les joueurs adhèrent à ce que j'essaie de faire en tant que coach, je pense que moi, ça me suffit en tout cas. Ça me suffit, j'ai pas besoin de gagner des référendums, des trucs. C'est ce que mes joueurs me donnent, me montrent, me témoignent comme amour, comme respect. Ça me suffit. Et alors, pour revenir à votre question, c'est vrai que dans ma première vie professionnelle dans le secteur bancaire, j'ai un profil différent. Moi, j'ai été un joueur très moyen, voire mauvais. Et donc, comme coach, j'ai pas le profil typique. J'ai vécu 10 ans à l'étranger quand je travaillais dans les banques, en Hollande, en Allemagne, à Munich, c'était formidable, et à Londres.
C'est une belle équipe là-bas, à Munich.
Ouais, ils ont une belle équipe. C'est sûr que si le Bayern de Munich m'appelle, je vais aller à pied. Ça, c'est sûr. Et donc, pour répondre à vos questions, oui, un jour, je crois que l'étranger, j'ai vécu 10 années formidables à l'étranger, aussi bien en Hollande qu'en Allemagne qu'en Angleterre. Et c'est quelque chose que j'ai encore envie de faire et j'ai envie de faire profiter mes enfants de ces cultures différentes, d'avoir des rencontres, je crois que j'ai envie de faire ça. On en a déjà parlé avec ma femme. Je pense que c'est quelque chose qui me plairait bien. Voilà,
justement.
Je pense qu'à Bruxelles, j'ai pas terminé ce que je devais faire, mais l'étranger, c'est quelque chose qui m'attire.
Mais justement, vous parlez de votre vie privée, vous passez beaucoup de temps ici parce qu'on ne le dit pas assez, mais comme vous l'avez dit, vous combinez plusieurs casquettes, ça empiète sur votre vie privée.
Oui, c'est beaucoup de travail. c'est beaucoup de travail. Il y a d'autres gens du club qui travaillent énormément aussi. Je crois qu'on travaille tous très dur. Et j'ai surtout la chance d'avoir une femme très compréhensive qui a aussi fait du sport de haut niveau. Elle était, c'était une très bonne joueuse de tennis. Et voilà. Et puis, on parle surtout. On parle, on s'organise. Voilà, je crois que c'est ça le secret. C'est vraiment qu'on se parle et qu'elle me laisse faire toutes ces bêtises dans le basket. Mais après il faut penser à sa famille. Il faut aussi essayer de donner du temps et d'être présent, quoi. Je crois que c'est
important.
Ouais, c'est très important.
Vous avez parlé de l'étranger, justement. Mm-hmm. Est-ce que vous suivez la NBA, la NCAA, l'Euroleague ?
Alors, mon championnat favori, c'est l'Euroleague. Je trouve que c'est extraordinaire. Je regarde tous les matchs, toutes les semaines, tous les matchs d'Euroleague.
Hier, ce soir ?
Ouais, ce soir, je vais encore les regarder, c'est clair. Hier soir, pardon. Je les ai regardés. Mercredi, pas, parce qu'on jouait, mais j'ai l'Euroleague Pass, et donc je regarde tous les matchs. J'apprends énormément de choses.
Voilà ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous apprenez de certains coachs comme
J'apprends énormément de choses en regardant l'Euroleague. Je suis pas fan de la NBA, à part les playoffs, mais voilà, je trouve que
c'est différent de l'Euroleague.
Voilà, c'est une philosophie différente. Allez, moi, je préfère le jeu collectif, la défense collective, la tactique, etc. Voilà, j'adore l'Euroleague. Je suis vraiment un grand fan. J'aime bien évidemment le March Madness, la NCAA, mais on a d'ailleurs parier sur les brackets avec les joueurs.
J'allais vous le demander justement, c'est pas compliqué parfois, vous voyez le matin des joueurs arriver avec des petits yeux, et qu'est-ce que t'as fait cette nuit ?
Non, parce qu'on a la chance d'avoir des joueurs sérieux. On a vraiment la chance d'avoir des joueurs sérieux. Non, mais l'Euroleague, ouais, je suis un grand fan, et d'ailleurs, chaque année, j'essaye d'aller dans l'un ou l'autre club. J'essaye d'aller, donc je suis allé à Sienne, Montepaschi Siena, quand ils étaient encore en Euroleague d'ailleurs. Quand on était en première année de division 1.
On vous a vu faire plusieurs
chez
visites,
Vincent Collet, voilà. pendant une grosse semaine là, à Strasbourg, extraordinaire. J'ai 80 pages de notes de discussion avec Vincent Collet. On est allé à Nanterre, ici je suis allé au Portel. Je pourrais aller à Valence ou même à l'Olympiakos, donc après les playoffs, je vais essayer de me prendre quelques jours pour aller dans ces clubs-là. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai envie d'apprendre. Chaque jour, j'ai envie d'être meilleur que la veille comme coach. Et quand tu vas dans des clubs comme ça, quand tu as l'occasion d'échanger avec des coachs comme ça, c'est comme ça que tu te formes, que tu te développes, que tu deviens meilleur. Moi, je ne suis plus le même coach qu'il y a 3 ans. Et je commence aujourd'hui à voir quelque chose là-bas au bout qu'on pourrait appeler ma philosophie de jeu. Ce n'est pas très clair, c'est flou, c'est loin, mais je commence à voir quelque chose qui ressemble à ça. Ouais. Et c'est grâce à tout ça. C'est grâce aux matchs que je regarde, c'est grâce aux échanges avec les coachs. Je crois que c'est vraiment important d'échanger.
Et vous encouragez vos joueurs à regarder l'Euroleague, par exemple ?
Non, je ne leur donne pas de conseils. Par contre, avec Guy, on en parle souvent, parce que lui, c'est aussi un gros fan d'Euroleague. Et donc, tu as vu le match d'hier, tu as vu ce qui s'est passé. Waouh, incroyable. Voilà, tu as vu la défense là-dessus, ou tiens, tu as vu l'attaque qu'ils ont jouée là, c'est pas mal. Donc oui, on échange par rapport à ça, mais je ne les oriente pas trop, on va dire.
C'est laquelle votre équipe préférée, on va dire, dans l'Euroleague là, actuellement ? Quelle équipe vous aimez regarder ?
J'adore l'Olympiakos. J'adore l'Olympiakos parce que c'est un club historique, parce que j'adore Spanoulis, et puis parce que bon an, mal an, qu'ils changent de coach, ils ont toujours une défense extraordinaire. Extraordinaire. Évidemment, j'adore le CSKA, parce qu'ils ont des joueurs, ils ont du talent, c'est absolument extraordinaire. Et je suis assez admiratif de ce que fait l'Étoile Rouge de Belgrade. Avec un petit budget, ils sont toujours en route, dans
un chaudron aussi.
Ouais, incroyable. Ils sont toujours, ils ont une chance de se qualifier.
En course pour le playoff.
Voilà. Je suis assez admiratif de ce qu'ils font. Donc voilà, j'aime bien ces clubs-là. J'aime bien Broz. Je trouve qu'ils jouent bien en basket. Malheureusement, voilà, ils ont eu des défaites assez courtes, mais j'aime bien la façon dont ils jouent au basket. Bamberg. Ouais.
Donc, mais j'imagine que les Américains entre eux parlent beaucoup NBA.
Oui, évidemment, forcément, eux, ils sont. Ils sont focalisés sur la NBA, ils sont sur le NCAA aussi maintenant.
Actuellement là, c'est
forcément. Ouais, eux c'est évidemment la NBA, hein, le rêve.
Ah ouais, le rêve de le certains. Rêve. Ouais. Vous espérez sortir un jour un joueur d'ici qui a la NBA ?
Ce serait chouette parce que ça voudrait dire qu'on va toucher beaucoup d'argent, mais oui, pourquoi pas. C'est déjà arrivé en tout cas. Copeland, il était à Lost, il est parti en NBA.
Chavonnet, oui, ça fait des Summer League.
Voilà. Ouais, mais les Summer League c'est très politique, hein, ça veut pas dire grand chose. Ça ne veut pas dire grand-chose.
Guy Mouillet aussi les a fait, je pense, c'est, si je me trompe
possible,
pas.
Il y a longtemps, alors. J'espère qu'il ne va pas écouter.
Vous lui demanderez demain.
Ouais, ouais.
Bah, donc voilà, on touche tout doucement à la fin de cette interview. Je vous laisse la parole pour un dernier mot, si vous avez quelque chose de particulier à dire.
Qu'est-ce que je pourrais dire ? En tout cas, je voulais vous remercier à This is Basketball, très sincèrement. Et ça fait longtemps que je suis fan et que je vais régulièrement, c'est-à-dire tous les jours sur Internet, suivre l'actualité du basket en D1, mais aussi dans les divisions inférieures. Et je voudrais vraiment féliciter This is Basketball et tous les gens qui sont derrière pour le travail. C'est vraiment important. Moi, je réalise à quel point ce que vous faites est important pour le basket belge, pour l'avenir du basket belge et le fait de passer des matchs, tous les matchs en live, en streaming. Je crois que c'est une avancée incroyable pour tous les acteurs et surtout pour nous, les clubs de Division 1. Et donc, j'invite tout le monde à se faire membre et à aller voir sur le portail This is Basketball TV. C'est vraiment très intéressant. Bravo.
On va finir sur ces belles paroles, je pense. À très bientôt à tous pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à commenter, liker, nous donner vos avis, vos commentaires. Si vous avez envie qu'on interviewe quelqu'un, n'hésitez pas. Allez, à la prochaine.
Merci, au revoir.